Raymond Gabart, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des Mémoires du Couserans. Et aujourd'hui, votre question de ruralité, oui, mais de la ruralité transposée à Paris.
Eh bien oui, alors le mon titre, c'est tout simple, hein, la ruralité à Paris, voilà. Eh oui, l'Ariège à Paris. Alors certains pourront y commercer, tenter donc de ramener des médailles, je crois que ça va être fait, c'est déjà fait pour certains, surtout valoriser leur travail, et bien sûr faire reconnaître leur production et leur savoir-faire aussi. Et puis, il y a les autres. Alors, il y a toute une cohorte d'habitués, donc, qui, eux, ne produisent rien, il faut le dire, qui ne créent aucune richesse non plus, ça, je me plais à le dire aussi, mais qui profitent quand même bien et sans retenue du système. Et alors, c'est ce qu'on appelle, moi, j'appellerais la traditionnelle balade des gens heureux, annuelle d'ailleurs, montée à la capitale pour y festoyer, voilà. Alors, souhaitons quand même seulement qu'il ne nous coûte pas trop cher, voilà. Point de suspension. Et alors certes, le conseil départemental a mis, comme ils disent, enfin, je l'ai entendu dire et je l'ai noté, ont mis la main à la poche. Alors moi j'ajouterai à la poche de qui ? Des contribuables, bien sûr, et que nous sommes. Et voilà, alors bon, passons maintenant à ces temps particulièrement, particulièrement difficiles quand même, hein, il faut le reconnaître, surtout pour nos agriculteurs, pour nos campagnes, hein, un peu délaissées, beaucoup délaissées peut-être même. Mais redevenons sérieux, donc je redeviens sérieux, et nous voilà donc au Salon de l'Agriculture. Alors le Salon de l'Agriculture, reconnaissons que c'est une véritable vitrine du savoir-faire français dans le domaine agricole et surtout agroalimentaire, bien sûr. C'est une façon de mettre à l'honneur quand même le monde de la ruralité. Mais ce salon, comment est né ce dernier ? Eh bien, cela, disons, a commencé, hein, écoutez bien, avec le premier concours agricole. C'était en 1870, ça s'était passé au Palais de l'Industrie, où s'étaient tenues plusieurs expos universelles d'ailleurs, et comme celle de 1859, ou encore une des plus importantes, avec la construction entre autres de la Tour Eiffel de 1889. Alors sous l'autorité de Napoléon III, dont ce concours va évoluer avec la présence d'animaux, c'était en 1876, où sont mis en valeur les races françaises, et après la guerre, alors la guerre de 1870, dans ce concours ne reprendra, il y aura un sacré passage à vide, enfin il y aura des petites manifestations, mais le premier concours, intéressant, ce sera en 1923. Le succès fera, et de ce concours, qu'en 1925, c'est-à-dire deux ans après, la manifestation va s'installer au parc des expositions de Versailles, voilà, ou à Porte de Versailles, comme on dit, où il est actuellement, et ils avaient déjà eu plus de 34 000 visiteurs. Alors là aussi, il va être interrompu par le deuxième conflit mondial, hein, et il ne reprendra sérieusement, là encore, qu'en 1951, et on peut appeler ça une reprise, avec une nouvelle dynamique, et ce, en particulier grâce au ministre de l'Agriculture de l'époque, qui était Edgar Pisani. Voilà, Edgar Pisani, donc, qui avait insufflé quand même pas mal de nouveautés et puis, disons, de facilité d'installation, voilà. Et alors, là, je saute quelques années, j'arrive à l'année 1964, où là, ça sera le tout premier salon international, hein, de l'agriculture, et qui va déjà accueillir plus de 300 000 visiteurs pour atteindre des sommets dans les années 1980, et donc, on est arrivé même, je crois qu'il y a eu des pointes jusqu'à 800 000 entrées. Je crois que cette année, on en entend 600 000 ou 700 000, voilà. Et alors, on peut ajouter que de chemin parcouru, donc, depuis les comices agricoles, issus du XVIIIe siècle, avec les concours d'animaux de boucherie. Mais là aussi, savez-vous que le tout premier comice agricole sera créé en Couserans? Eh oui, et c'était en 1841. Et par qui? Eh bien, par le baron Haussmann. Le baron Haussmann qui, je le rappelle depuis fort longtemps, a été sous-préfet de Saint-Jérôme et 1841-1842. Voilà. Et le grand baron Haussmann. Et alors, quelques années plus tard, c'est un autre baron, celui-là né à Saint-Jérôme, qui va relancer en Couserans le comice agricole. Il n'est autre que le baron Louis de Bardis. Alors, le baron Louis de Bardis, il va être le premier à lancer et puis à revaloriser, donc là déjà, vous voyez, une production plus intense de lait. Il va œuvrer également pour le classement de la race bovine saint-gironaise, qu'on connaît bien sous le nom de la Casta. C'est lui qui va également créer le syndicat agricole de l'arrondissement de Saint-Jérôme. Et on lui doit, bien sûr, le célèbre camembert d'Oust, c'est pas peu dire, fabriqué par millions, donc, et maintes fois primé, lui aussi, maintes fois primé. Voilà, un peu partout, dans toute la France, et même au-delà. Alors, entendez par comice, parce que vous allez vous demander qu'est-ce que c'est le comice. Alors, le comice agricole, on remonte en 1841, au départ, c'était la réunion, donc, qui était formée par les propriétaires, et les fermiers de l'arrondissement pour améliorer les procédés et également les productions. Comme on peut le constater quand même, le Couserans de ce début du siècle dernier, grâce à des gens entreprenants, était loin d'être à la traîne. Et il est même dans beaucoup de domaines, il donnait une image de précurseur. Alors, il faut aussi rappeler, en ce qui concerne l'élevage, c'est que le cheptel du Couserans, à lui seul, a longtemps été le plus important de l'Ariège. Et autrement dit, à lui seul, le cheptel du Couserans représentait plus de la moitié de tout le cheptel du département de l'Ariège. Et alors ça, je me plais à le dire, parce que je l'ai appris à environ deux mois et demi, entre autres, au président de la Chambre d'agriculture, M. Lacube, et aux invités, lors de l'inauguration du bureau, d'une antenne un peu, pour l'agriculture de Saint-Jérôme. On a ouvert donc un bureau à l'avenue Foy de la Chambre d'agriculture, et on m'avait demandé de faire un petit historique sur le lieu, entre autres, et c'est là que j'ai appris ça, donc aux autorités saint-gironaises et ou autres, et également au président. Voilà, le cheptel du Couserans était le plus important que de toute l'Ariège et de très loin. Non, c'est pas un hasard, vous voyez, si on a quand même un savoir-faire. Et alors, Saint-Girons, bien sûr, tenait d'importantes foires grâce à ça, des foires aux bœufs, aux moutons, mais aussi aux ânes et aux chevaux. Et on les devait, tout cela, à de nombreux agriculteurs et éleveurs qui mettaient un point d'honneur, disons, à soigner leur élevage et à mettre en valeur donc des races locales. Et, entre autres, je l'ai dit, la Casta pour le bovin, la castillonnaise pour les ovins, mais aussi la race chevaline Castillon. Alors cette race qui a failli disparaître et qui a été sauvée dans les années 75-80, grâce à la pugnacité de quelques éleveurs et de notables, je pense aussi de l'ancien maire de Castillon, qui était Paul Claudanet, voilà. Et le mec qui s'était vraiment investi. Et alors ce cheval emblématique de Castillon, représentant cette vallée, et puis également du pays tout entier, qui est endurant, il a une polyvalence, il est élégant, et il est une des fiertés quand même du Couserans. Et alors rien d'étonnant si on le retrouve dans les divers concours de l'époque, de chevaux et pouliches, du début du siècle dernier, dans pas mal de palmarès, moi qui ai relevé pas mal dans les journaux de palmarès, donc on retrouve cette race castillonnaise, au même titre d'ailleurs que le Mérens, qu'on présente d'ailleurs tous les ans, ces deux races au salon de Versailles. Je pense qu'il y a également cette année, aux côtés de tous les producteurs locaux, comme on dit, qui sont montés à Paris. Et à tous une partie, parce que quand même ça doit revenir relativement cher. Et, mais c'est vrai qu'il faut à tout prix que ces derniers montrent leur savoir-faire, qui est, ça sert également à promouvoir la région et surtout la vendre. Et c'est le plus important, il ne s'agit pas d'aller faire de la figuration, vous voyez. Et il faut c'est sûr, moi je pense que c'est un gros handicap, quelles que soient les manifestations qu'il y a dans le Couserans depuis quelques décennies, on ne sait pas le vendre dans le Couserans. Voilà. Et c'est, et encore plus de pouvoir le situer l'Ariège. Et à ce sujet d'ailleurs, même si je me répète, et il serait peut-être opportun, et donc que nos politiques, censées représenter quand même notre département, usent de leur influence, alors entre parenthèses, s'ils en ont, et tant soit peu, et pour que notre département prenne quand même définitivement le nom qui lui sied le mieux, l'Ariège-Pyrénées. Et ce, officiellement, pas sur des bouts de papier ou sur les voitures, hein, Ariège-Pyrénées. Et on est le seul département, regardez, il y a les Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales. Hein, donc, nous, on est au cœur des Pyrénées et on s'appelle l'Ariège. Hein, Ariège-Pyrénées. Et on n'aurait pas à les dépenser des centaines de milliers d'euros tous les ans pour situer notre Ariège. Voilà. C'est la meilleure façon de la faire connaître, hein, déjà bien de la situer. Voilà, c'est pas le moins cher à faire, ça, c'est pas le plus cher, je veux dire, voilà. Et puis voilà, bon, alors moi je renouvelle, bon, peut-être ça arrivera dans les instances officielles, hein. Voilà, même une année, ce sont payés ou deux des agences de communication à grands frais, d'ailleurs, des agences parisiennes qui n'ont rien donné, d'ailleurs. Voilà, mais ce que l'on peut quand même ajouter, c'est qu'il y a une bonne vingtaine ou plus, donc, de producteurs divers, ariégeois, qui vont être cette année présents à Paris. Il y en a 4-5 du Couserans. Et donc, ils vont pouvoir promouvoir la qualité de leurs produits, et qui seront présentés aux visiteurs. Et bien entendu, tout cela va continuer à bruer, donc à vendre notre département, ce qui est le principal. Voilà. Aujourd'hui, c'est quand même des représentants de l'Ariège, de la Borieuse, tous ces gens-là, qui réussissent à mettre en valeur leur savoir-faire. Et par contre, on peut constater quand même que le Couserans est peut-être un peu moins représenté que certaines années. Mais bon, ça, c'est en fonction aussi des dispositions et des disponibilités. Voilà. Et voilà. Mais pour en revenir à notre Couserans en Pyrénées aussi, sachez qu'il y a fort longtemps, grâce justement à ce savoir-faire ancestral, donc dans divers domaines, j'ajouterai, et tout cela, ça, on s'employait à l'époque à glaner dans diverses manifestations. Il y avait beaucoup de concours, des foires expositions également, mais on ramenait de partout de nombreuses médailles. Et ce, aux quatre coins de la France, dans le domaine culinaire, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui surtout, il existait pas mal de foires, mais surtout tous ces concours. Et il était bon d'y participer, vous voyez, il y avait un effort considérable pour aller participer donc à tous ces concours aux quatre coins de la France. Et c'était encore la meilleure façon, d'une part, de faire connaître, mais aussi de faire reconnaître et obtenir une certaine notoriété. Alors pourquoi ? Parce que si on était médaillé quand même, les heureux lauréats ne manquaient pas donc d'exploiter ces médailles pour conquérir de nouveaux clients. Et c'est le but. Et c'est ainsi que leur réclame, entre parenthèses, ce qu'on appelle maintenant la publicité, se faisait au travers des journaux locaux. Ils étaient nombreux, les journaux locaux aussi. Ça, j'en reparlerai. Il n'y avait pas deux, trois médias, là, donc, qui monopolisaient ils se partageaient leur savoir, voilà. Et tout en étant très, très d'accord. Il y avait de nouveaux locaux, et c'est ainsi donc on pouvait donc reconnaître tout ce qui était bon dans notre pays. Et d'autant plus que moi je suis friand de ça, les papiers à lettres. Les papiers à lettres, ce qu'on appelle les factures ou les bons de commande, et qui au début du siècle dernier étaient magnifiquement décorés. Et bien sûr copieusement ornés de toutes les médailles obtenues. Hein, moi j'ai pas mal de trucs, et ils obtenaient les médailles dans les contours, donc, et ce, à partir des années 1890 jusqu'aux années 1930 à peu près, et on pouvait y trouver ces descriptifs. De tous les artisans, commerçants, il y avait des usines, des fabriques, bien sûr, en dehors de ça, les mines carrières, qui étaient fort nombreux, tout ça, en Couserans. Et à ce sujet, moi j'ajoute que je suis particulièrement intéressé par ces factures, et ça ne représente pas grand-chose, c'est tous ces papiers divers relatifs à d'anciennes maisons ou fabriques diverses du pays Saint-Gironnais. Et je recherche donc, bien entendu, assidûment tous ces petits papiers, comme on dit, voilà. Et justement, c'est un peu grâce à ces documents qui ne sont pas, disons, que j'ai couramment, ça et là, découvert. Et je m'aperçois que les médaillés couseranais du début du siècle dernier, et qui faisaient déjà honneur à notre région, comme quoi avaient de faibles moyens, hein, parce qu'il n'y avait pas de gros moyens, il y avait à l'époque des gens entreprenants. Et oui, il y avait des gens entreprenants qui certainement avaient le sens des affaires ou qui étaient peut-être plus prudents que maintenant, et par là même, ils créaient de l'emploi. Il y avait énormément d'emplois, ben, avec des petites structures. Et c'est ce qui nous manque d'ailleurs. Pas des grosses usines, mais des petites structures. Et alors déjà en 1885, tenez, il y avait le journal Saint-Gironnais, et qui était imprimé à Saint-Girons, hein, avec des Saint-Gironnais, donc, qui s'appelait l'Écho Pyrénéen. Hein, il y en avait tellement qu'il fallait trouver un nom, et qui relatait, dans un article, la visite en ville de la beurrerie de la maison Souquet, qui deviendra une des plus importantes de toute la région des Midi-Pyrénées. Et alors le journaliste, donc, qui avait fait ce reportage, ajoute qu'il avait découvert une impressionnante quantité et qualité de beurre, qui était donc également expédié journellement et dans les plus brefs délais grâce au train, et dans tout le sud-ouest. Et il avait, alors j'ajoute, parce que je l'ai trouvé bien plus tard, que pratiquement tous les grands pâtissiers toulousaine, donc, se fournissait à la beurrerie Souquet. Alors, je l'ai située, elle était petite rue Villefranche. Et d'ailleurs, il y avait encore les vestiges, il y a 60 ou 70 ans, d'une roue à aube, donc, qui alimentait cette beurrerie. Il y avait également une fabrique de glace. Et alors, il y avait également un important négoce de lait, forcément de fromage, des œufs, et également de la glace. Et il y avait une usine à glace, donc, dans ces mêmes lieux. Et alors ces établissements Souquet, d'ailleurs, pour en revenir donc à ces fameuses médailles, avaient obtenu plusieurs de ces médailles, notamment à Bordeaux, et dans les concours des grands salons, des foires expositions, à Marseille, même une médaille d'or au concours de Toulouse, bien entendu en région parisienne, et il y avait, ce que beaucoup de gens ignorent, également plusieurs fabriques de fromage de camembert. Il n'y avait pas que celle douce, en Couserans, il y en avait pas mal. Et c'est ainsi qu'en 1895, jusqu'aux années à peu près 1950-65, par là, plus d'un million de ces excellents fromages sortaient des 5 usines et qu'il y avait dans le Couserans. Alors tout cela a été livré de Bordeaux jusqu'à Nice, mais surtout exporté en Afrique du Nord. Et alors c'était le plus important, c'était les fromageries douces. Mais aussi, il y avait à Saint-Lizier une fabrique avec le fameux spécial. J'aurais été curieux de goûter ça, moi d'ailleurs, avec le fameux bleu persillé de Saint-Lizier. Et bon, c'était lui aussi vu attribuer de nombreuses médailles dans plusieurs salons et concours organisés dans tout l'Hexagone, mais aussi en Belgique. Alors à Bédemal, Ernest Goudouming, la famille Douming, donc, avec ses fameuses tomes des Pyrénées, qui n'a rien à voir avec les tombes qu'on trouve maintenant. Absolument rien. C'est ce qu'on avait baptisé le célèbre bête mâle. D'ailleurs, quand des gens anciens, un peu comme moi, on dit aujourd'hui fromage le bête mâle, qui n'est pas forcément du bête mâle. Parce que c'était une appellation qui n'a pas été reconnue, mais qui a, disons, à lui seul, avec l'année, une douzaine quand même de médailles dans toute catégorie. Alors, plein centre-ville également. Il y avait, là c'est pour vous parler des nombreux bénaillés, il y avait une pâtisserie-confisserie. Alors cette pâtisserie-confisserie, il y en a eu beaucoup, mais là je vous remonte en 1900-1905, c'était la maison Dupont-Aîné. Alors cette maison, cette chose était établie au pied de l'église. Et au pied de l'église, et elle était baptisée La Renommée. Vous voyez, c'était déjà rien que le nom. Et ce grand pâtissier, donc, artisan, alors c'est, pour le situer, c'était à l'emplacement des travailleurs actuels. Puisqu'il y avait un immeuble qui était beaucoup plus bas, et qui, jusqu'aux années, je pense, 30-35 ou un peu avant-guerre. Et ils avaient, pendant un demi-siècle, non seulement régalé les couserannés, mais bien au-delà, d'où ces fameuses médailles. Et qu'on leur avait attribué. Et notamment, c'est pour dire, si on remonte de l'Ain, en 1881, c'était une importante exposition de l'industrie qui s'était passée à Pau, et où ils avaient obtenu une belle médaille d'or pour la fabrication, et une fabrication qui est restée malheureusement secrète, de petits fours. Et donc, ils avaient dû monter après une petite fabrique de whisky, de biscuits. Et voilà. Et alors, de ces fameux biscuits, donc, qui étaient parfumés à la vanille, mais il y avait tout un secret de fabrication qui n'a pas été divulgué quand cette biscuiterie a disparu. Voilà. Mais plus étonnant, en ce début du siècle dernier, c'était à la rue du Marsan, avenue Henri Bernet actuelle. Il y avait une importante conserverie qui était spécialisée dans les salaisons diverses, bien sûr, la conserve alimentaire. C'était la maison Paul Ferré. Alors c'est vrai que les Ferré, également, je pense que c'était un parent qui, ou peut-être même eux, qui avaient été un certain temps, vers les années 1900, propriétaires de ce qu'on avait appelé l'hôtel des Princes, qui se situait entre le Café de l'Union et l'école du Champ de Mars. Il y avait un joli petit hôtel, avec un joli nom, en plus l'hôtel des Princes, voilà. Et alors cette maison Paul Ferré, qui s'était fait une renommée régionale, et même au-delà, avec une spécialité de foie gras truffé. Hein? Donc, vous voyez, je remonte quand même en 1900 à peu près. Et alors, ces fameux pâtés de foie gras truffé, qui étaient très appréciés des curistes, bien sûr aisés, entre parenthèses, des stations thermales donc de toutes les Pyrénées, mais surtout du Couserans également, de toutes les Pyrénées, et qui, à juste titre, donc, avaient obtenu également une médaille d'or pour la fameuse pâté truffée. Et alors, titre très convoité quand même dans ce domaine à l'époque. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et il y a plus de 100 ans, ça courait pas les rues, les pâtés de foie gras truffés. Voilà. Et alors, bien sûr, ce qu'il y a, c'est que les gens qui venaient, forcément, il y avait quand même une très belle clientèle. Et ces gens-là, quand ils repartaient, ils faisaient des provisions. Et ils se partaient aux quatre coins de France. Donc, il y a un peu plus d'un siècle, on dégustait des pâtés truffés de Saint-Jérôme fort loin. Mais puisqu'on en parle beaucoup du bio, il faut aussi parler de cet élevage innovant, et là encore innovant. C'était un élevage de volailles, ça se passait toujours dans ces époques-là, 1898-1900, au domaine des espaces à Montesquieu à Ventes. C'était une entreprise très innovante en ce début donc, du XXe siècle, même un peu avant, qu'avait créé le comte Henri Bégouin. le comte Henri Bégouin, autre important personnage, il faut quand même le rappeler, qui a œuvré pour la prospérité du Couserans, dans divers domaines également. J'y reviendrai, d'autant plus qu'il a, ça a été un politique, lui par contre, créateur de richesses, et pas avec ses propres deniers. Là, je pense qu'on en a très peu connu ou pas du tout, et qui ont fait de la politique et qui se sont investis avec leurs deniers pour essayer de créer de la richesse ou des emplois. Mais ça, c'est un aparté. Voilà. Donc ces gens-là, il faut les rappeler et leur faire honneur de temps en temps, les sortir de l'oubli. Et puis à Saint-Girons, également, une maison qui a été maintes fois primée également, c'était la maison donc de Clara. La maison en Clara, qui était un important horticulteur, pépiniériste, au pont du Beau, à l'entrée de Saint-Girons, à droite, qui avait été, écoutez bien, déjà primé en 1898, et également en 1910, c'était le père Eugène Clara, donc, qui sera d'accord à ce titre, d'ailleurs à ce titre, décoré de la médaille agricole. Donc, et c'était le père de Zizi, Zizi Clara, qui a pris la suite, le grand joueur de rugby international, d'ailleurs, du Saint-Girons Sporting Club. Voilà. Alors, une très importante entreprise, qui avait été, comme beaucoup, donc primée, d'autres, comme d'autres, en Couserans, et ce, dans beaucoup de domaines. Alors, il fut un temps, quand même, on pourrait ajouter, il pleuvait des médailles et des récompenses, donc, dans notre Couserans, preuve de l'intense activité qui régnait, donc, dans ce petit pays gascon, avec des gens d'ici, entreprenants, et on peut reconnaître, ils avaient du talent, quand même. Et alors, c'était pas mieux avant. Et on savait le vendre, ce Couserans. Réfléchissons un peu à ce que je vous raconte aujourd'hui. Alors, en attendant, je vous dis au revoir, et puis, bien sûr, à la semaine.